Notre invité ce matin, Jean-Marie Dick, bonjour.
Bonjour Cyrielle, bonjour à tous.
Vous êtes directeur de la SAFER dans les Hautes-Alpes. Alors la SAFER, c'est quoi? On le précise à chaque fois. En fait, vous êtes l'opérateur du marché foncier rural. Vous préservez à la fois les terres agricoles. Vous opérez aussi une reconquête de la biodiversité. Ou encore, et là je cite votre site internet, vous visez la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ça sonne comme un doux rêve maintenant.
La souveraineté alimentaire, pourtant, c'est essentiel. Hein. On est dans un contexte international qui évolue très vite, comme on le voit. La souveraineté énergétique, en 6 mois, elle a remis en cause. Et on en fait tous le constat, souvent amer. La souveraineté alimentaire, ça peut nous arriver demain également. Et donc, c'est un objectif pour nous. C'est pas un objectif qui est uniquement de la SAFER, puisque c'est devenu une véritable politique publique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le nouveau ministre de l'Agriculture s'appelle le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Donc ça correspond à une véritable prise de conscience et une politique publique qui fait qu'il faut qu'on arrive à produire en France, en Europe, pour garantir notre autonomie alimentaire. Ça paraît comme des grands mots. Nous, on est des acteurs du territoire. Les affaires sont à l'échelle régionale depuis 60 ans. On a des délégations départementales dans chaque département de France. On a des instances qui sont composées de personnes du territoire, des agriculteurs et des représentants des collectivités. Donc pour nous, ça a quand même quelque chose de très concret. C'est réussir à gagner en autonomie, installer des agriculteurs, consolider des filières en leur mettant à disposition du foncier agricole pour qu'ils fassent leurs projets et aussi, autant faire se peut, préserver un maximum de foncier agricole productif. C'est celui qui a un vrai potentiel de production parce que c'est des terres cultivées, c'est des terres qui bénéficient d'irrigation. Nous sommes dans un département, une région où il y a eu des grands travaux, des grands aménagements sur la seconde moitié du XXe siècle qui nous permettent de produire.
Ouais. Donc, d'ailleurs, j'allais vous poser la question. Le foncier agricole aujourd'hui, est-ce que c'est devenu un placement financier dans les Alpes du Sud, un moyen d'investir dans un actif qui produirait de la richesse par la production agricole, mais aussi par l'augmentation de la valeur du terrain?
Alors, on est sur un marché agricole qui est sous tension, parce qu'on est quand même sur une agriculture dynamique et donc nous avons de la concurrence entre projets agricoles et nous, on a un véritable rôle à la fois de régulation, c'est-à-dire de maintien des prix du foncier agricole, mais aussi d'orientation, c'est-à-dire de choisir le projet qui facilite le plus l'installation en agriculture, qui consolide les filières.
Donc, que ça ne tombe pas entre les mains de gros investisseurs chinois, si je résume.
Ah non, pas du tout. Non, on n'est pas confronté à ça dans les Alpes du Sud d'investissements étrangers, ni dans les Alpes de Provence, ni dans les Hautes-Alpes. Par contre, l'autre réalité du marché des terres agricoles, c'est qu'il faut bien avoir conscience que la moitié des surfaces agricoles sont vendues avec des bâtiments, parce que c'est la structure de la propriété. Il y a souvent une maison ou des anciens corps de ferme qui sont vendus avec du foncier agricole. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à appréhender pour nous. Parce que, en termes de capacité financière, acheter du foncier agricole pour la SAFER, c'est possible. Acheter des bâtiments, c'est quand même un autre enjeu. Et donc, c'est sur ce sujet-là que nous travaillons pour renforcer nos capacités d'action et être en mesure également de protéger du foncier agricole et de maintenir sa destination de productivité, même quand il y a des bâtiments.
Oui, alors, il y a un autre enjeu aujourd'hui qui est pointé par les jeunes agriculteurs, c'est le développement de l'agrivoltaïsme en France, c'est-à-dire que l'État a annoncé vouloir accélérer le développement des énergies renouvelables. Alors, on ne parle pas forcément de développer le photovoltaïque sur les toitures, sur les parkings ou sur d'autres bâtis, mais on parle plutôt d'installer du photovoltaïque, par exemple, sur les terres agricoles. Ça aussi, on y est confronté dans les Alpes du Sud, à cet agrivoltaïsme.
L'agrivoltaïsme, aujourd'hui, il en est encore à un stade expérimental. La SAFER a pris une décision, le conseil d'administration de la SAFER a pris une décision il y a quelques mois en disant que nous, sur le foncier qu'on maîtrisait, l'agrivoltaïsme serait possible à titre expérimental sur une surface d'un hectare maximum. Parce qu'en termes d'agrivoltaïsme, on a encore des interrogations sur la capacité des installations à la fois à produire de l'énergie, mais surtout à maintenir un niveau de production agricole qui soit suffisant.
Ça rentrerait en concurrence, en fait, la production agricole et la production d'énergie renouvelable.
Alors, c'est possible que ça rentre en concurrence, et c'est possible aussi que ce soit symbiotique, mais on a très peu de recul expérimental. Et on a du mal à avoir des données. Donc, là, ce sont à la fois aux opérateurs de la recherche, aux chambres d'agriculture qui font de l'expérimentation et aux opérateurs qui travaillent sur les projets de montrer aux acteurs de la politique publique que c'est possible de faire de l'agrivoltaïsme. Aujourd'hui, on est quand même aujourd'hui, en l'état des données, à ma connaissance, on est quand même dans une certaine interrogation. Par contre, c'est clair que nous sommes sous pression, les Alpes du Sud, parce que nous avons un territoire qui est propice du fait de son ensoleillement, et nous avons aussi des structures, que ce soit en arboriculture ou en viticulture, qui pourraient servir de support à l'agrivoltaïsme. Mais voilà, nous sommes très prudents à la SAFER sur ce sujet, parce que ces structures représentent quand même de l'artificialisation, dans le sens où il faut construire des supports, et on considère, nous, globalement, que c'est quand même 15% d'artificialisation quand on crée ces installations, et si ça vient à nuire à la production agricole, est-ce que c'est vraiment encore de l'agrivoltaïsme? C'est plus la production énergétique que la production alimentaire, et donc nous, ça nous pose vraiment question.
Et quel est le principal danger aujourd'hui des terres agricoles dans les Alpes du Sud, parce qu'on a l'impression quand même qu'elles sont de plus en plus préservées dans les choix d'aménagement des communes, des intercommunalités, des départements, voire même de la région. Il y a les SCOT, il y a les schémas régionaux d'organisation territoriale, il y a les PLU également. On a l'impression quand même que le foncier agricole est toujours préservé.
Alors, il est bien plus protégé en termes de politique publique depuis 15 ans qu'il ne l'a été. Pour rappel, depuis 50 ans, si on se place à l'échelle du massif alpin, donc de Provence à Côte d'Azur, c'est-à-dire les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Provence et une partie des Alpes-Maritimes, il y a 20 000 hectares qui ont été consommés par l'urbanisation, et il y a 35 000 hectares, donc de foncier agricole, qui a reculé au profit de la forêt. Donc on est quand même sur des pertes de surface qui sont très importantes depuis 50 ans, avec un vrai recul du foncier agricole. Depuis 15 ans, on voit une évolution. D'abord, je pense, en 2008, suite à la crise de 2008, on a eu un tassement de l'activité économique et de la construction. Et ensuite, avec la mise en place de politiques publiques qui ont commencé à faire leur effet sur le fait de consommer moins de foncier agricole, de densifier plus les villes, et c'est clairement ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, en effet, le foncier agricole, il est mieux préservé, mieux protégé qu'il y a quelques années. Depuis 15 ans, on le constate.
Mais peut faire mieux, en tout cas.
On est encore sur la consommation, comme un département des Hautes-Alpes, autour de 150 ou 200 hectares de foncier agricole par an. On peut pas arrêter de toute façon le développement des territoires. Par contre, là où il faut être particulièrement vigilant, ce que je vous disais en début d'interview, c'est sur le foncier agricole le plus productif.
Justement, parlons-en du foncier agricole le plus productif. Direction la commune de Remoulon, où il y a des terres agricoles qui produisent, notamment dans l'arboriculture. Sauf qu'il y a ce projet qui revient, ce serpent de mer qui revient des années après. La déviation de Remoulon, elle passera par des terres agricoles. Le département va se rendre propriétaire de ces terres pour pouvoir faire passer cette déviation. La SAFER va se prononcer quant à ce projet.
Alors nous, on a un partenariat de longue date avec le département, notamment sur ces sujets de
l'impact
sur le foncier agricole et de réserves foncières. Un projet comme la déviation de Remoulon, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle soit d'intérêt général et qu'elle sera déclarée d'utilité publique. En effet, la seule façon de passer, c'est au sud du village. Ouais. Donc, il y aura forcément un impact sur du foncier agricole. À partir du moment où le projet est déclaré d'intérêt général, les prérogatives de la SAFER en termes de préservation des espaces va s'effacer au profit de l'intérêt général, c'est normal. Par contre, ça n'empêche pas que nous, on va travailler avec le département pour essayer de trouver un tracé qui a le moins d'impact possible sur les vergers et aussi de compenser en termes de foncier. On crée des réserves foncières. Ça fait 20 ans qu'on a une politique de réserve foncière avec le département, c'est-à-dire que la SAFER achète en anticipation des propriétés agricoles pour pouvoir compenser les exploitants agricoles impactés le jour où les travaux se réalisent. Aujourd'hui, le projet, il ressort, comme vous l'avez dit. Il y a encore beaucoup de choses à caler. Un ensemble d'études, le tracé, il n'est pas bien connu. Donc, c'est encore prématuré pour mesurer l'impact réel que ça aura sur le foncier agricole. Pour l'instant, je peux pas vous donner, j'ai pas beaucoup plus d'éléments à vous donner. Mais par contre, je peux vous citer un autre exemple.
Oui.
Parce qu'on avait réussi en urgence dans le cas de la route qui a dévié le pas de l'ours. Mm-hmm. Donc, pour desservir Avriès, où là aussi, il y avait un impact sur les prés de fauche. Et dans le Kera, les prés de fauche sont une ressource essentielle pour la viabilité des exploitations. Et on avait réussi dans l'urgence à compenser les exploitants agricoles concernés, notamment parce qu'on avait une réserve foncière que nous avions créée département, commune et SACER en commun et dans laquelle on a pu puiser pour compenser les agriculteurs.
Donc il y a toujours un mécanisme de compensation. Dernière question, la SACER dans les Hautes-Alpes donne des rendez-vous dans les prochains jours.
Oui, alors nous participons à la quinzaine de la transmission. Nous sommes dans la quinzaine de la transmission et de l'installation en agriculture qui est organisée par les chambres. Et donc, nous participons à plusieurs événements. Demain, il y a un événement organisé par les jeunes agriculteurs à l'ADFPA, donc rue Paul Aubert à Gap. Ça s'appelle le Forum des projets agricoles. Donc, si vous avez des projets agricoles, si vous avez une volonté de transmettre votre exploitation, vous êtes bienvenus. Il y a une table ronde le matin. Il y a des intervenants qui sont de tous les organismes qui accompagnent l'installation de l'agriculture qui seront à votre disposition demain après-midi. Donc ça, c'est un événement important pour les porteurs de projets en agriculture ou les exploitants qui envisagent de céder. Et on fait aussi une autre journée demain qui a lieu cette fois-ci à l'auberge de jeunesse à Aiglier, en partenariat avec la chambre d'agriculture et le parc naturel régional du Kera sur le thème « S'installer en agriculture », donc Brian Sonnet, « C'est possible ». Et ça vient conclure un travail de transmission d'exploitation que nous avons mené avec la Chambre d'agriculture à l'échelle du territoire en repérant des cédants, en les accompagnant, en accompagnant des porteurs de projets. Et donc, il y aura des témoignages d'élus, de maires qui ont une vraie politique d'installation sur leur commune et aussi de jeunes qui ont réussi à s'installer. Donc ça, c'est intéressant aussi de participer à ces journées pour voir que c'est possible, s'installer en agriculture, c'est possible dans un département comme le nôtre. Qu'on soit issu de l'agriculture ou pas, on peut s'installer. Et pour le renouvellement des générations, c'est essentiel que les agriculteurs s'installent dans les années à venir.
Merci beaucoup, Jean-Marie Dic, d'avoir été avec nous ce matin, directeur de la SACER des Hautes-Alpes. Merci.